Merci à tous ceux qui nous ont conduits pendant ce temps d'approche du Seigneur, où nous nous réjouissons de sa présence, de ce qu'il est pour nous. Nous voulons maintenant nous mettre à l'écoute de sa parole. Dans cette année, nous voulons nous laisser accompagner et porter par l'épître de Paul aux Philippiens. Et nous allons lire au premier chapitre les versets 1 à 8, versets 1 à 8 dans le livre de l'Épître de Paul aux Éphésiens. Nous avions déjà médité les premiers versets qui disaient tous les liens de l'apôtre avec les chrétiens de Philippe. Nous continuons. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que j'aie pour vous de telles pensées, car je vous porte dans mon cœur, et que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous à la même grâce que moi. Jusqu'ici, notre lecture. Paul est ici très positif sur les chrétiens de Philippe, sur leurs relations. Mais en même temps, il nous faut reconnaître que la vie n'est jamais quelque chose de donné d'avance. Qu'est-ce qui permet de se lancer dans une course aussi longue que la vie chrétienne? C'est quand même une vraie question. Qu'est-ce qui permet seulement d'espérer tenir jusqu'à la fin? Comment ne pas vivre dans la hantise qu'un jour on s'écroulera ou qu'un jour on lâchera tout? Nous nous connaissons bien. Nous nous savons parfois fragiles dans nos résolutions. Combien de grandes décisions sans lendemain? Combien d'élan trop tôt stoppé? Nous sommes vite à bout de souffle. La distance nous fait peur. L'exigence nous effraie. Sur quoi compter face à ces fragilités? Nous ne savons pas non plus ce qui nous attend devant. Le chemin sera-t-il facile à notre portée? Ou allons-nous rencontrer des obstacles, des montagnes redoutables, des galères interminables? Sur quoi compter quand on ne sait pas ce que l'on devra affronter? Être chrétien, on nous le dit souvent, c'est beau, mais c'est aussi exigeant. Cela apporte beaucoup, mais cela demande aussi énormément. Les objectifs sont élevés. Marcher dans les pas de Jésus, c'est magnifique comme présence, mais c'est immense comme modèle à imiter. Et il y en a dans notre vie des choses à changer, des choses à transformer. Pour certaines de ces choses, on a déjà essayé 100 fois. Sur quoi compter quand le but est aussi élevé? Oui, qu'est-ce qui permet de se lancer? Qu'est-ce qui permet d'avancer dans une course aussi longue que la vie chrétienne, sans craindre un jour de tout lâcher, sans redouter de déclarer forfait? Je me souviens que ce sont ces questions qui, pendant un temps, m'ont retenu de devenir chrétien. J'avais vraiment peur de ne pas y arriver, de ne pas arriver au bout, de ne pas pouvoir persévérer. Trop peur de ne pas tenir. Ce sont peut-être ces mêmes questions qui vous arrêtent, qui vous empêchent de faire le pas suivant, le premier pas vers Dieu peut-être, ou le pas suivant dans votre marche avec Dieu. Trop peur de ne pas tenir. Trop peur de ne pas être à la hauteur. Ce sont peut-être encore ces mêmes questions qui vous empêchent de vous réjouir pleinement de l'espérance que donne la foi. Trop peur de ne pas tenir, de ne pas être fidèle jusqu'à la fin. Ce sont peut-être enfin ces mêmes questions qui vous écrasent un peu face à Jésus que vous aimez pourtant. Trop peur de ne pas être à son niveau, de ne pouvoir jamais lui plaire. Si vous êtes entré avec moi dans ce questionnement, il va vous falloir maintenant faire une sacrée gymnastique pour vous retrouver en phase avec le texte que nous venons de lire et que Paul écrit aux chrétiens de la ville de Philippe. Quand il parle d'eux, quand il parle de leur vie chrétienne, pas la moindre fissure de crainte, pas la moindre fissure de question. Rien qu'une joie magnifique pour ce qu'ils sont. Rien qu'une assurance totale pour ce qu'ils deviendront. C'est juste époustouflant. Je rends grâce à mon Dieu, dit l'apôtre, à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et je suis persuadé de l'aboutissement de cette œuvre en vous. Et c'est juste que je pense comme cela pour vous. La ligne est claire, sans faille, positive sur toute la ligne. Cette tonalité, il nous faut l'entendre, la recevoir. Lorsque Paul parle de la vie chrétienne, il a une tonalité enjouée, confiante. Et toute cette épître aux Éphésiens est marquée par la joie et la confiance de l'apôtre. La vie avec Dieu, c'est donc quelque chose de positif, de tonique, de confiant, de serein. Quelle est la source de cette tonalité si belle? Est-ce que c'est parce que les chrétiens de Philippe sont des hommes, des femmes un peu exceptionnels? Il y a certes des liens très forts entre l'apôtre Paul et ses chrétiens. Nous les avons soulignés en méditant les premiers versets de cette épître. Mais ces liens ne suffisent pas à exprimer la confiance de l'apôtre et son regard positif. Sa source de confiance ne réside pas dans leur capacité ou dans leur qualité exceptionnelle de chrétien. C'est d'ailleurs une pensée que l'apôtre Paul s'interdirait au nom même de l'Évangile. Au chapitre 3, un peu plus tard, il parle de son expérience ancienne, alors qu'il était très attaché à l'observance de la loi de Dieu. Il dit, à cette époque-là, je mettais ma confiance dans la chair, c'est-à-dire dans mes capacités à me rendre moi-même agréable à Dieu. Cette attitude-là, dit Paul, maintenant je la rejette complètement. Je la considère même comme de la boue, comme presque une ordure, des ordures. Et en effet, l'apôtre Paul, dans sa propre expérience, a fait l'expérience traumatisante de découvrir que, alors qu'il croyait servir Dieu, il était en train de faire le contraire et de s'opposer au Seigneur alors qu'il persécutait les chrétiens. Avoir vécu cela, ça laisse très peu de place pour l'assurance en soi, en ses propres capacités pour plaire à Dieu, c'est certain. Ailleurs, Paul exprime aussi ce que peut vivre et ressentir toute personne qui essayerait toute seule, avec ses propres ressources, de plaire à Dieu. Et Paul en fait là un tableau bien plus dramatique que toutes les questions que j'ai posées tout à l'heure. Lisons rapidement Romains 7 à partir verset 14, quelques extraits. Nous savons, en effet, dit-il, que la loi de Dieu, celle qu'on veut observer, elle est spirituelle, elle est bonne. Mais moi tout seul, je suis charnel, vendu au péché. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Je trouve donc en moi-même cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de cette loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Pas question donc de chercher en nous-mêmes les bases d'une assurance devant Dieu, d'une assurance pour notre marche avec Dieu. Nous sommes trop vulnérables, trop inconstants, trop ambigus. La source de l'assurance de Paul, pour les chrétiens, de toute évidence, elle est ailleurs. S'il est aussi positif et aussi assuré, c'est qu'il considère que la vie des chrétiens, il faut la voir sous un autre angle. La vie du chrétien est une œuvre que Dieu accomplit, est une œuvre dans laquelle Dieu s'engage. J'en suis persuadé, dit-il, celui qui a commencé sa bonne œuvre en vous la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Voilà la clé. La vie avec Dieu n'est pas simplement une affaire de mon engagement avec Dieu. Certes, il nous faut avoir un engagement personnel avec le Seigneur. Certes, il nous faut nous ouvrir à son pardon. Certes, il faut nous ouvrir, lui ouvrir complètement notre vie. Mais notre engagement ne fait pas tout. La vie avec Dieu, c'est aussi la belle et la pleine histoire de l'engagement de Dieu envers nous. À partir du moment où j'ouvre ma vie avec Dieu, Dieu s'implique dans cette vie. Il prend à cœur ce que je suis, il prend à cœur ce que je deviens. Et Paul se régale de souligner cela. Il y a d'abord cette formule d'introduction, « J'en suis persuadé », dit-il. Lorsque Paul utilise cette formule, c'est qu'il veut dire quelque chose de fort, une vérité bien ancrée, solide, sur laquelle on peut s'appuyer. Et il y a ensuite ce verbe qu'il emploie pour dire l'œuvre et le projet de Dieu. Dieu a commencé une belle œuvre en vous. Et Paul emploie un mot ici qui est un mot un petit peu officiel. On pourrait presque dire Dieu a inauguré en vous une belle œuvre. Il a inauguré une belle œuvre, c'est-à-dire il a commencé quelque chose qu'il voit grand, comme quand on inaugure un bâtiment, c'est qu'on voit vraiment tout ce qu'il va représenter, tout ce qu'il peut apporter. Et il y a là un contraste. À notre niveau, à nous, souvent, notre première démarche vers Dieu, ou lorsqu'on fait un pas avec Dieu, lorsqu'on doit marcher avec lui, ça ressemble souvent à un timide pas, à un simple appel au secours. « Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi. » On est dans cet état d'esprit. Le Seigneur, lui, quand nous avons cette démarche, lui voit le début d'un vrai projet qu'il s'est fixé, d'un vrai projet qu'il est en train d'enclencher, d'un projet dans lequel il s'engage, lui-même, avec nous et pour nous. L'une des premières chrétiennes de l'église de Philippe, Lydie, illustre vraiment cela. Lorsque Paul la rencontre à Philippe, elle est une femme en recherche spirituelle, elle s'est déjà approchée du judaïsme. Paul lui parle de Jésus qui accomplit les promesses faites auparavant, celles entre autres que nous avons considérées ce matin. Jésus qui ouvre le chemin du salut à tous, sans distinction, homme, femme, juif, non-juif. Et Lydie accepte ce message et met sa foi en Jésus. Mais lorsque Luc nous raconte ça dans les Actes, il ne nous parle pas de la foi de Lydie. Ce n'est pas cela ce qu'il emploie comme terme, même s'il y a eu une foi de Lydie, c'est sûr. Il écrit « Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle reçoive ce que disait Paul. » Autrement dit, c'est Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en Lydie. Et cela, le Seigneur qui ouvre le cœur, le Seigneur qui commence à agir, lorsque nous venons à lui, ça c'est l'histoire profonde, c'est l'histoire intime de chaque conversion, de chaque fois qu'on se tourne vers Dieu. C'est une œuvre de Dieu. C'est une œuvre qu'il inaugure dans notre vie, après l'avoir pensée, voulue de loin, de très loin, dès avant la fondation du monde, nous dit l'apôtre Paul. Le salut serait quelque chose de totalement incertain s'il avait pour seul fondement nos décisions personnelles. Notre volonté connaît bien trop le chaud et le froid, la fermeté, l'instabilité, les commencements et les abandons soudains. Mais il y a plus que notre volonté humaine dans le salut qui nous est donné en Jésus. Il y a une œuvre de Dieu en nous. Il y a un engagement de Dieu. C'est le sens de ce mot, celui qui a commencé, celui qui a inauguré en vous cette bonne œuvre. Dieu inaugure, mais il ne se contente pas simplement de mettre quelques fleurs et de laisser les choses aller ensuite. Dieu inaugure, mais ensuite il poursuit ce qu'il a inauguré. Et Paul envisage dès à présent l'achèvement de l'œuvre. Cette œuvre, dit-il, Dieu la rendra parfaite. Dieu l'amènera à son terme. Mais il envisage une action continue en vue de cet achèvement. Et il est intéressant de voir son vocabulaire. Il parle du jour de Jésus-Christ, qui sera vraiment le jour où cela apparaîtra pleinement. Mais Paul ne dit pas « Dieu rendra son œuvre parfaite au jour de Jésus-Christ ». Ce n'est pas ça ce que dit l'apôtre. Il dit « Dieu rendra son œuvre parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ ». Autrement dit, l'œuvre parfaite, ce n'est pas juste un coup de baguette magique à la fin pour rattraper tout ce qui n'a pas été. C'est l'œuvre qui se fait, l'œuvre parfaite que Dieu fera, c'est une œuvre qui se prolonge jusqu'au jour de Jésus-Christ et qui trouve son apothéose en ce jour-là. Et c'est pourquoi certaines traductions disent « Il poursuit l'achèvement de son œuvre jusqu'au jour de Jésus-Christ ». Ça rend bien cette idée de continuité. Autrement dit, Dieu travaille dans notre vie. Et c'est par chaque expérience de chaque jour que Dieu travaille en nous. Les bonnes nouvelles, les circonstances plus difficiles, les obstacles, les bénédictions, sa parole qui nous reprend, sa parole qui nous encourage. Avec tout cela, le Seigneur poursuit son œuvre en nous. Sommes-nous un moment plus vacillants, plus incertains? Dieu n'abandonne pas la partie, il poursuit l'achèvement de son œuvre en nous, l'achèvement de ce qu'il a inauguré en nous, il le poursuit, même si parfois nous avançons sur un terrain plus incertain. Sommes-nous tombés? Dieu ne veut pas abandonner la partie pour autant. Il nous relève. Il nous offre son pardon. Il nous invite à vite revenir à lui parce qu'il veut continuer cette œuvre dont il veut voir l'aboutissement. Il poursuit l'achèvement de son œuvre en nous. C'est une action continue qui est la sienne. Nous en sommes au bénéfice et nous pouvons nous appuyer là-dessus pour continuer à avancer où que nous en soyons. Hein. Et c'est bon pour nous d'y penser. Que nous soyons en pleine forme, ça nous donne un tonus. Que nous soyons en difficulté, ça nous donne un recours. Si nous sommes tombés, cela nous invite à ne surtout pas rester par terre. Et si nous avons peur de nous y engager, nous pouvons compter sur ce qu'il va faire. Il poursuivra son œuvre en nous si nous nous donnons à lui, si nous nous ouvrons à lui. Et puis, nous dit Paul, le Seigneur a aussi un rendez-vous pour cette œuvre. Dieu ne travaille pas dans le vague. Il a fixé un jour où ce qu'il avait inauguré, ce qu'il a inauguré, ce qu'il a poursuivi, où cela aboutira. Et ce rendez-vous, il est déjà pris. L'agenda est déjà fixé. C'est le jour de Jésus-Christ. Il en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Pourquoi souligner cela, le jour de Jésus-Christ? Jésus aurait pu dire jusqu'à la fin de votre vie, mais il dit jusqu'au jour de Jésus-Christ. D'abord parce que c'est certain, au jour de Jésus-Christ, il y aura quand même un saut dans l'œuvre que Dieu accomplit. Dieu accomplit son œuvre en nous jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain aboutissement. Et nous avons à demander au Seigneur que cette œuvre, tout au long de notre vie, puisse se développer et arriver vraiment à ce qu'il attend de nous. Mais il est certain qu'au moment où le Seigneur Jésus reviendra, où il fera toute chose nouvelle, alors à ce moment-là, il y aura un saut. Il y aura un saut parce qu'on participera à quelque chose de beaucoup plus grand. Dieu fera alors toutes choses nouvelles. Dieu libérera sa création du mal et du malin. Et nous aussi, nous serons complètement libérés de toute emprise du mal. et nous pourrons participer à cette délivrance, totalement sanctifiée, totalement renouvelée dans nos dispositions, totalement libre de ce qui nous tire si souvent vers le bas. Ce sera la liberté, la vraie, qui permet toute l'expression de l'amour pour Dieu, parce que vraiment, tout est renouvelé autour et en nous. Alors c'est sûr que le jour de Jésus-Christ, c'est un rendez-vous qui est magnifique et qui apportera un plus, une apothéose, comme je disais toujours, tout à l'heure. Paul veut que nous gardions en vue cette perspective. Le Seigneur nous conduira jusqu'à la fin de notre vie, c'est sûr. Mais nous savons qu'au-delà aussi, après avoir jugé le monde pécheur, il fera toutes choses nouvelles. Et c'est cela, ce que le Seigneur voit dès le tout début, quand il inaugure son œuvre en nous, il voit déjà ce que ça donnera là-bas, tout au bout dans l'éternité. Au moment où tout timidement nous ouvrons notre vie à lui, il voit déjà ce qu'il fera au jour de l'agenda où qui est déjà marqué, où Jésus viendra, où Jésus fera toute chose nouvelle. C'est ce qui donne vraiment sa dimension finale à ce qui a été inauguré, et c'est vraiment quelque chose que le Seigneur fera. Et ça nous rappelle combien être uni à Jésus-Christ, c'est ça quelque chose d'étonnant. Quand nous venons à Dieu juste pour qu'il nous accepte, juste pour qu'il nous accueille, juste pour qu'il nous pardonne. Et le Seigneur, lui, nous met au bénéfice de tout ce que Jésus a acquis pour nous, de tout ce qu'il fera encore, que nous ne soupçonnons même pas. Tout cela, c'est un cadeau, c'est une grâce. Et Paul dit, c'est cette grâce qu'on a tous reçue, vous comme moi. Vous avez part à la même grâce que moi. Et c'est vraiment magnifique, c'est vraiment éblouissant. L'achèvement est préparé et il est l'œuvre de Dieu et il est sur l'agenda de Dieu. C'est aussi fort de cette pensée que Paul choisit un autre mot pour parler de l'œuvre de Dieu en nous. Dieu, dit-il, a commencé en vous une bonne œuvre, une belle œuvre. Non seulement il s'engage, mais il s'engage pour quelque chose de bon, pour quelque chose de beau. On ne peut pas séparer ces deux idées, bon et beau, ici. L'œuvre de Dieu est bonne moralement et par tout ce qu'elle nous apporte. L'œuvre de Dieu est belle aussi dans tout ce qu'elle crée, dans tout ce qu'elle vise. Et c'est utile de le rappeler. Car la vie avec Dieu a aussi ses exigences. Paul, lorsqu'il écrit ces mots, est en prison. Il parle de ses liens. Progresser dans la vie avec Dieu demandera parfois des efforts. Demandera parfois une discipline, cela implique des choix. Et Paul priera un peu plus loin pour les chrétiens de Philippe, pour qu'ils fassent les bons choix, les choix qui comptent. Que Dieu accompagne cela, que Dieu s'engage à nos côtés, ça ne veut pas dire que tout ira toujours comme sur des roulettes, que tout sera facile. Et c'est pourquoi il est important de discerner la nature de ce que Dieu fait en nous. C'est une bonne œuvre, c'est une belle œuvre. Prendre le temps pour prier, cela voudra parfois dire arracher du temps à autre chose. Mais la relation dans laquelle nous entrons nous fait du bien. Et une journée abordée avec Dieu ou coupée à un moment donné par une pause que nous faisons avec lui, nous la vivons autrement que si nous ne l'avions pas fait. C'est une bonne œuvre, une belle œuvre, une bonne chose pour nous. Nous laisser travailler intérieurement par Dieu, par sa parole, nous laisser reprendre parfois. Oui, ça veut dire que Dieu nous bouscule, c'est pas forcément agréable. Mais lorsque l'on voit les changements que Dieu fait, quand il nous a un peu bousculés, on est heureux, on est satisfait, et il y a là un vrai bienfait. L'œuvre de Dieu est une bonne œuvre, une belle œuvre. Se laisser comme Jésus saisir de compassion par les besoins des autres, c'est parfois accepter de se charger soi-même un peu de certaines situations. Mais voyez, celles et ceux qui entrent dans cette démarche, il y a toujours quelque part une flamme au fond de leur regard. L'œuvre de Dieu dans nos cœurs est une belle œuvre. Et puis il y a cet autre mot à relever dans notre texte. Ce que Dieu a commencé. Ce que Dieu a commencé. Ça veut dire aussi qu'il y a place pour l'apprentissage. Il y a place pour l'apprentissage. Les disciples de Jésus l'ont dit très simplement, Ils ont dit à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous. C'est libérateur de nous savoir ainsi accueillis par Dieu comme des apprentis. Cela veut dire que nous pouvons essayer, que nous pouvons faire des expériences, échouer parfois quelque chose sans que ce soit forcément un drame. Ça veut dire aussi que nous pouvons commencer petit. Inutile de vouloir d'emblée nous attaquer aux Everest de la vie spirituelle. Il y a place pour commencer plus modestement et pour vivre là où nous en sommes, des joies et faire des découvertes. Être apprenti, ça veut dire aussi que nous n'avons pas à nous crisper sur un objectif que nous n'avons pas encore atteint totalement ou une régularité que nous ne tenons pas absolument dans toute sa rigueur. Un apprenti n'acquiert pas du jour au lendemain le geste parfait, il faut s'en souvenir. Nous pouvons valoriser les progrès que nous avons faits plutôt que de voir sans cesse tout ce qui nous sépare encore de l'idéal. Nous sommes en apprentissage et le Seigneur le sait. Et il est le compagnon de ceux qui veulent apprendre. Il est un Dieu de patience, de persévérance. Il sera avec nous chaque fois que nous dirons « j'y vais » ou « je repars ». Ou à chaque fois qu'il faut dire « il faut se relever et reprendre la route ». Le Seigneur a commencé une œuvre en nous. Il poursuivra cette œuvre et nous sommes toujours dans sa ligne si nous prenons les chemins qui nous font avancer. Mais parler de Dieu qui a commencé et qui poursuit l'achèvement de son œuvre signifie aussi que le progrès est toujours possible. Par l'action du Saint-Esprit, des ressources nouvelles peuvent nous être données et des ressources que nous ne possédons pas nous-mêmes. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Le Seigneur qui commence son œuvre en nous est un Dieu qui nous accompagne, est un Dieu qui sait nous renouveler intérieurement. Il est question du fruit que porte l'Esprit en nous. Ça veut dire quoi ? Le fruit que porte l'Esprit en nous, ça veut dire que l'Esprit est capable de mettre en nous des capacités, des dispositions qui ne sont pas naturellement en nous. Il peut créer en nous le vouloir et le faire. C'est ce que Paul dira un peu plus loin dans cette même épître. Nous pouvons, dans notre vie avec Dieu, compter sur des ressources que lui nous donne, où il nous donne ce que nous ne possédons pas nous-mêmes. L'envie de faire le bien, c'est quelque chose qui peut nous être donné. Les ressources pour vaincre le découragement, c'est quelque chose qui peut nous être donné. La force de résister au mal, c'est quelque chose qui peut nous être donné. La fermeté dans nos dispositions, cela peut nous être donné. La paix face à nos circonstances, cela peut nous être donné. La force pour affronter plutôt que fuir, cela peut nous être donné. Tout cela, nous pouvons l'expérimenter, le recevoir au fil de nos situations. Il s'agira bien sûr de le vouloir, de le demander à Dieu. Si quelqu'un manque de sagesse, et on peut dire aussi manque de bien d'autres choses, qu'il le demande à Dieu, nous dit l'apôtre Jacques. Et Dieu donne simplement et sans faire de reproche à celui qui lui demande. Nous pouvons vraiment avoir cette démarche à l'égard du Seigneur. Jacques 1, verset 5. Le Seigneur aime ces prières qui lui disent notre désir et notre besoin de progresser. Elles entrent précisément dans ce qu'il a plaisir à faire en nous. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas condamnés à toujours retomber dans les mêmes ornières. Il y a place pour de vrais progrès. Alors si peut-être dans un domaine de notre vie, nous sentons que Dieu nous reprend, que Dieu nous travaille, si là nous nous disons « mais là il faudrait vraiment que ça change », ne faisons pas de cela un signal décourageant. Disons-nous, ah, c'est probablement le Seigneur qui poursuit son travail. Il est à l'œuvre. Il me met à cœur de changer. Et si nous lisons dans sa parole quelque chose qui nous reprend, disons-nous, oui, il est au travail, le Seigneur. Il poursuit son œuvre. Et il est bon de lui dire, Seigneur, continue. Montre-moi ce que je peux faire, mais ne me laisse pas. Et là où je manque de ressources, donne-moi, toi, les ressources que ton esprit veut créer en moi. Alors voilà, la vie avec Dieu, qu'est-elle? Comment fonctionne-t-elle? La vie chrétienne est tout sauf une affaire solitaire. Paul a souligné au début de l'épître que cette vie se vit dans de belles et bienfaisantes relations fraternelles. Et c'est bien, c'est précieux. Mais ici, Paul nous rappelle le partenariat fondateur, décisif. Dieu a décidé de s'investir dans notre vie si nous sommes ouverts à lui. Il a décidé de s'investir dans notre transformation, dans une belle œuvre qu'il veut accomplir. C'est ça ce qui permet de se lancer dans la vie chrétienne. Et j'aimerais dire que si l'un ou l'autre parmi nous hésite ce matin, a peur de se lancer, n'hésitez pas surtout, ne vous laissez pas arrêter par cette fausse question de dire « est-ce que j'y arriverai ?» Si vous vous lancez, c'est que Dieu veut vous accompagner. Comptez sur lui. Il commencera cette œuvre en vous et vous le verrez accomplir cette œuvre dans votre vie. C'est ce qui permet aussi de persévérer. C'est ce qui permet de surmonter nos vacillations. Et nous en avons tous, mais Dieu ne vacille pas même là où nous vacillons. C'est ce qui permet vraiment ce partenariat de Dieu, cet engagement de Dieu dans notre vie. C'est ce qui nous permet de ne pas avoir peur de ne pas y arriver. Il faut de la persévérance pour progresser, pour aller jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est une parole de Jésus. Mais notre persévérance ne dépend pas que de nous. Elle est aussi une grâce, un renouvellement qui nous est donné au fil de la marche. Leur force augmente pendant la marche, disait un psaume à propos des pèlerins qui vont à Jérusalem. Et c'est aussi vraiment quelque chose qui se vit dans notre vie chrétienne. Nous pouvons persévérer malgré nos incertitudes, malgré nos faiblesses, parce que Dieu s'engage magnifiquement à nos côtés. Il veut être notre recours, quelle que soit la situation, quel que soit le besoin. Il voit loin, il voit très loin déjà pour nous. Dieu ne lâchera pas ce qu'il a commencé. Ne lâchons pas non plus. Amen.